Bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Fatman à la technique. Oui, en cette première partie d'émission, je vais parler de football, soccer pour les autres, football pour les uns, soccer pour les autres. La France qui a été battue par la Croatie, ils ont déjà perdu son titre, ça c'est la Ligue des Nations, c'est pas la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ça va être en novembre 2022 au Qatar. Voilà, et puis on parlait un peu aussi, je parlais aussi un peu de tennis. Il y a Serena Williams qui a fait un petit clin d'œil sur les réseaux sociaux aujourd'hui là, pour sa présence à Wimbledon, bientôt en été, cet été. Voilà, et puis quoi encore, le coup du chalumeau du Sahara, la chaleur, les températures de dingue en Europe. En Espagne et en France, 43 degrés, mais c'est fou. Quand on voit les gens, on n'est même pas encore en été. Voilà, c'est ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire en été? Là, ils sont mal barrés, comme on le dit, quoi. Alors, et en deuxième partie d'émission, je vais parler aussi du Musée des Beaux-Arts, bien sûr. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Marie Ayotte, directrice artistique et générale du Théâtre Déchaîné, qui vient nous parler de la pièce de théâtre sensorielle des mots à la fenêtre. Très intéressant. Si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute. À la deuxième partie de l'émission, celle qui sera avec nous comme invitée aujourd'hui. Alors tout de suite, je pars avec... D'abord, je commence avec les températures de fou. C'est toute une folie là-bas. Ce qui se passe actuellement là, bon, jusqu'à 43 degrés, une vague de chaleur anormale. Asphyxie l'Espagne avant d'arriver en France. Oui, parce que ça vient du Sahara. C'est ce qu'on appelle le coup du chalumeau du Sahara. Alors imaginez un peu ceux qui vivent là aux abords du Sahara, ou bien ceux qui vivent même dans le Sahara, parce qu'il y a des peuples, il y a des gens qui vivent là-bas. Et le soir, ça chute complètement. Voilà. Alors c'est même pas le début de l'été, cette vague de chaleur saharienne qui déferle sur la France entre... Depuis, ça a commencé. Hein. Hier même, c'était là. Aujourd'hui, ça va jusqu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire jusqu'à samedi. Les températures sont caniculaires, ça, il faut le dire, avec des pics de plus de 40 degrés Celsius annoncés. Un record pour la mi-juin. Voilà, c'est comment les gens vont s'arranger. C'est vraiment précoce. Les météorologues disent, mais c'est une précocité qui alarme les météorologues. Ils sont alarmés, quoi. Voilà, ce n'est que le début. Voilà, hier dans les Bouches du Rhône, c'était 37,2 degrés Celsius et le thermomètre va continuer à monter de plus en plus comme ça jusqu'au week-end, jusqu'à la fin de la semaine, atteignant localement 40 degrés dans le sud de la France, sous l'effet d'un phénomène appelé, comme je l'ai dit, le coup du chalumeau du Sahara. J'aime bien ça. C'est la canicule annoncée cette semaine qui prend forme déjà. Bon, les gens sont avertis. Le gouvernement français vient de débloquer 500 millions d'euros pour développer des îlots de fraîcheur en ville. 500 millions d'euros pour développer des îlots de fraîcheur en ville. Pour ceux qui sont à la campagne, bon ben, ils sont déjà un peu au frais. Disons, ils sont en contact direct avec la nature, avec Dame Nature, la forêt, les arbres. Ils ne sont pas obligés forcément de rester dans leur domicile. Ils peuvent aller se promener en forêt, entre les arbres, et puis avoir de la fraîcheur. Alors, c'est dans les Bouches du Rhône d'ailleurs que les premiers records ont été établis. Il n'avait jamais fait si chaud, si tôt dans l'année, entre le 10 et le 20 juin, à Marseille, Marignane. D'après Météo France d'ailleurs, la barre de 36,2 Celsius a été atteinte. Donc on se dit, qu'est-ce qu'il adviendra quand le vrai été sera là? Parce qu'actuellement c'est le faux été là, voilà. C'est comme ça que j'avais le faux été. Waouh, s'agit d'un niveau 0,9 supérieur à la précédente valeur maximale qui a atteint le 17 juin 2003 avec 35,3 degrés Celsius. J'espère que ces 500 millions d'euros débloqués par le gouvernement français va permettre aux citadins, ça c'est dans les grandes villes, c'est là qu'ils vont construire ces îlots de fraîcheur. Le coup du chalumeau du Sahara, ce seuil devrait rapidement être dépassé, 35-40. Voilà, ça c'est... Et puis les températures nocturnes, ne dites pas que la nuit ça descend. Non, 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 ça descend pas. Elles deviendront de plus en plus étouffantes. Alors, les vendeurs de climatiseurs et autres vont commencer à se faire de l'argent. Aujourd'hui, là, alors que les thermomètres... aujourd'hui, les thermomètres vont flirter à peu près les 35 degrés Celsius dans la région en Occitanie. et des organes, des orages sont également attendus aussi dans le sud-ouest de la France. Météo France prévient aux gens, allez, allez, restez. Pour ceux qui peuvent rester chez eux, les déplacements, les moyens, les, allez, si vous entendez des orages, n'allez pas vous cacher sous des arbres. Ça, il faut éviter. Voilà, il faut éviter. 500 millions d'euros pour développer des îlots de fraîcheur pour faire face à cette vague de chaleur en France. Donc, c'est pour rafraîchir les centres urbains. L'appel également à la vigilance et à la solidarité envers les plus fragiles. C'est pas seulement la France qui est touchée, hein. Et puis, par cette vague exceptionnellement précoce, le Portugal, non, l'Espagne, jusqu'à 43 degrés de Celsius. C'est anormal. Voilà. On se dit, mais la dame nature n'a pas dit son dernier mot. Hein. On finira un jour par dire, oh non, elle a gagné la guerre. Nous sommes trop têtus, on fait de n'importe quoi quand on parle de réchauffement climatique, changement du climat, écosystème, tout, météo. On sait pas de la blague. Il y a 4 épisodes sur les 10 derniers mois en Espagne qui sont passés seulement. Les scientifiques, la multiplication des vagues de chaleur, notamment dans toute l'Europe, c'est une des conséquences du réchauffement climatique. La semaine passée, quand j'ai vu les montagnes de grêle de neige, de grêle en Allemagne, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du jamais vu, ça. Voilà, c'est plus que même le point, mon point de mes 5 doigts quand je forme comme ça. J'ai dit, mais alors là, vraiment, la dame nature ne nous a pas encore dit la vérité. Il y a quelque chose qu'elle nous cache. Je ne sais pas. Alors, j'aimerais bien qu'elle nous le dise maintenant pour qu'on puisse prendre nos précautions. Non, oh non, c'est toujours de surprise en surprise. Alors, les Espagnols ne sont pas épargnés. Voilà, il faut faire très, 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 très attention parce que là, il faut le dire, c'est pas fini. Ce n'est que le début du commencement. On va en musique et puis je vais vous parler d'autres choses. Voilà, un peu de soccer, un peu de tennis, un peu de un peu d'environnement encore. C'est pas fini. C'était Young the Giant, Superposition, voilà. Alors comme je l'ai dit en début d'émission, je vais parler un peu de soccer, voilà, pour les uns et foot pour les autres, à l'international. Battue par la Croatie, la France a déjà perdu son titre, parce que ouais, elle était championne d'Europe des Nations. Mais ce n'est pas le cas, elle n'a gagné aucun match jusqu'à présent, que des matchs nuls ou bien battus. La Croatie vient de la battre 1-0. Ça, je me suis dit, là, ils sont mal barrés. Quatrième de leur groupe, c'est fini. Bon, ils ne peuvent plus rêver, là, même avec la présence de Kylian Mbappé. Et ça s'est passé hier en plus, avec la présence de Kylian Mbappé, Karim Benzema, toute l'équipe était là. Le gardien du but français, il a failli même arrêter le pénalty. C'était un but, ce pénalty, d'ailleurs. Il a failli l'arrêter. S'il avait arrêté, ça allait être un match nul. Et ils sont quatrième de leur groupe. Bon, ça ne leur permet pas d'aller l'avant-quatrième. Le Danemark est en tête de ce groupe-là, d'ailleurs. Donc, c'est la première fois que la Croatie s'impose face à la France en 10 confrontations, en 10 matchs. Oui, avec 2 matchs nuls. 1-1 en Croatie et en Autriche. Et 2 défaites à domicile, 2-1 contre le Danemark, dans un groupe initialement considéré comme abordable. Les Bleus, le bilan est plutôt alarmant, quoi. C'est un an après un échec cuisant à l'Euro contre la Suisse et 5 mois avant d'aller défendre une étoile mondiale au Qatar. Alors là, les gens ont commencé à se poser des questions. Est-ce que l'équipe de France est encore sera dans le jeu là-bas au Qatar? Non, on ne peut pas juger pour l'instant. Mais les gens ont commencé à se poser des questions, car avec 2 points en 4 matchs, la France ne peut non seulement plus rêver du final 4, distancé par le Danemark qui a 9 points. Je parle de la Ligue des Nations, je ne parle pas de la Coupe du Monde qui aura lieu en 2022, en novembre 2022 au Qatar. Distancé par le Danemark qui est en tête avec 9 points, mais devra aussi lutter pour éviter une dernière place qui la privera du statut de tête de série pour les qualifications à l'Euro 2024. Alors là, bon entendeur, salut, je crois bien qu'ils sont bien avertis. Je ne sais pas ce que l'entraîneur leur dit. Après ces différentes défaites, ces matchs nuls, ils n'arrivent même pas à gagner. Et contre la Croatie, ils ont sombré dès les premières minutes, frustrés par un léger croque en jambe du novice Ibrahima Koné. 2 sélections sur Ante Budimir, c'est ce qui a provoqué le pénalty, qui a été transformé par l'inévitable Luka Modric. Voilà, faisant enrager Mike Maignan, déjà battu sur cet exercice lors du match aller à Split 1-1 une semaine plus tôt. Bon, ça, c'est des situations qui arrivent. Le Danemark, lui, a conservé la tête du groupe en battant 2-0 l'Autriche. Mais c'est ce qu'il faut faire. Avec tous ces grands talents, toutes ces grandes vedettes dans l'équipe de France, je n'ai pas dit que la Croatie et autres ne sont pas de bonnes équipes. Mais avec ces millions, Mbappé qui coûte plus de 100 millions d'euros maintenant, Kylian Mbappé qui coûte plus de 100 millions d'euros maintenant, et le grand du Real de Madrid, Karim Benzema, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est pas possible. Les Danois ont écarté sans trop de difficultés les Autrichiens. C'est ce qu'il faut faire. Et quand on voit, même si le papier, la supériorité est là, il faut le montrer sur le terrain aussi pour permettre aux gens qui sont derrière vous, qui se déplacent dans les salles pour vous supporter, d'avoir au moins de l'espoir pour Qatar 2022. Alors ce petit matelas-là, ça place les Danois en bonne position pour espérer décrocher une place pour le final 4, dont les rencontres auront lieu du 14 au 18 juin 2023. Là, sinon quoi, c'est fini. Donc, dans cette perspective, la rencontre Croatie-Danemark du 22 septembre apparaît déjà décisive. Voilà. Et puis, Je vais pas, comme je parle du Qatar, je prends la balle au bon en même temps. L'Australie qui vient de battre le Pérou se qualifie pour le mondial. Les Australiens sont les avant-derniers qualifiés pour le Qatar grâce, c'est les avant-derniers, parce qu'il y a un autre match qui aura lieu. Grâce à leur victoire en barrage hier, l'Australie est l'avant-dernier pays qualifié pour le mondial qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre. Marquez bien cette date, ces deux dates-là. Le 21 novembre jusqu'au 18 décembre 2022, après avoir écarté au tir au but le Pérou 0-0 et puis 5 buts à 4, c'est-à-dire quoi, tir au but, les pénaltys. C'est-à-dire que deux équipes jouent 90 minutes, il n'y a pas de but. Et puis il y a des prolongations, il y a une prolongation de prolongation de 15 minutes, 15, vous avez 30, ça fait 120, 90, 30, 120. Il n'y a pas de but. Voilà, et puis on va au tir au but. Chaque équipe a droit à 5 pénaltys, 5 tirs au but. S'il y a pas de but, ils se font 0-0 là, et puis ils sont repartis. Non. Au tir au but, c'est l'Australie qui a gagné 5 pénaltys et le Pérou n'a gagné que 4. Donc voilà, le gardien de but australien a sauvé a sauvé le tir. Donc ils sont qualifiés. Je suis allé voir le résumé du match, il ne fallait pas les voir en train de sauter là. J'ai dit. Donc c'était une séance avec laquelle les Australiens ont changé de gardien d'ailleurs. Andrew Redmayne remplaçant Matthew Ryan. C'est lui qui a permis de gagner. Ils ont su que ça allait arriver. Il n'y a pas eu de but durant les 90 minutes. Durant les 30 minutes de prolongation, donc les tirs au but leur ont permis de se qualifier pour le Qatar 2022. Voilà, il fallait pas, il fallait pas prendre le risque. L'expérimenté joueur de 33 ans et spécialiste de l'exercice a été décisif. Après un premier tir australien de Martin Boyle, stoppé par le gardien péruvien Pedro Galese. Là, les Péruviens, le Pérou, c'est pas une équipe qu'il faut négliger. Hein. Et ça fait longtemps que le Pérou joue à la Coupe du Monde. C'est comme l'Uruguay, le Paraguay dans les années 50-40. Ces pays-là étaient déjà là, participaient à la Coupe du Monde de soccer, de football. Donc, les deux équipes à nouveau égalité à l'issue de la première série de 5 tireurs. C'est finalement Renouane qui a envoyé les siens au mondial, c'est-à-dire au ciel, en arrêtant la tentative d'Alex Varela. Voilà. Ne reste qu'un billet sur les 32 décrochés pour la première Coupe du Monde. Oui, de foot dans un pays arabe, comme ils disent. Hein. Là-bas, de l'autre côté, dans ce coin du monde-là. Il y a le mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande qui vont tenter d'intégrer le relevé du groupe E avec l'Espagne, l'Allemagne et le Japon. C'est-à-dire que si le Costa Rica gagne, c'est le Costa Rica qui sera la dernière équipe pour compléter les 32 équipes qui vont se rendre au Qatar. Si c'est la Nouvelle-Zélande qui gagne, elle va compléter la liste des 32 équipes qui sont déjà, qui vont se rendre au Qatar. Donc, il y a 31 nations déjà qui sont déjà qualifiées. En zone Afrique, il y a le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Zone Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Équateur, Uruguay. Zone Amérique du Nord et Centrale, Canada, États-Unis, Mexique. Zone Asie, Qatar, le pays hôte, Arabie Saoudite, Australie, Corée du Sud, Iran, Japon. Et puis en Europe, il y a l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, Pays de Galles, Portugal, Pologne, Serbie et la Suisse. Alors, ça, de toutes les façons, quand on va revenir en saison, septembre, octobre, novembre, on va parler tout le temps du mondial aussi, tous les jours, avec Myriam. Hein? C'est comme ça. Ça fait partie du sport. C'est un sport mondial. Ça se joue même dans les comtés les plus reculés où il n'y a même pas d'électricité. Mais les enfants vont trouver un moyen pour jouer au football, au soccer.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà, sur ce, je vais attaquer le tennis maintenant. Il y a Serena Williams qui a annoncé aujourd'hui qu'elle va se rendre à Wimbledon. Elle a reçu son invitation pour Wimbledon. Et pourtant, il y avait quelques jours déjà, il y avait quelques journaux qui annonçaient qu'elle ne serait pas là. Elle a reçu son invitation. Ils n'ont pas encore tous reçu leur invitation. Voilà, donc la septuple championne de Wimbledon, c'est-à-dire qu'elle a déjà gagné là-bas. Quand on dit septuple, c'est 7 fois. Elle a déjà gagné là-bas 7 fois à Wimbledon. Oui, elle va retrouver le gazon londonien cet été, si tout se passe bien. On lui souhaite la bonne santé aussi. Elle sera rendez-vous à Wimbledon. Elle a tweeté. Les centres voient mardi, c'est ça, aujourd'hui, sur son compte, son retour à la compétition dans un tournoi qu'elle a remporté 7 fois. La septuple championne de Wimbledon, Serena Williams. Oui, son dernier match de remonte d'ailleurs, il faut le dire, au premier tour de l'édition 2021 où elle avait dû abandonner en raison d'une blessure à la cuisse. Elle est depuis retombée à la 1208e place du classement mondial et a obtenu mardi une des wild cards. Aujourd'hui, l'invitation des organisateurs pour Wimbledon, la cadette des sœurs Williams qui va jouer, jouera auparavant en double le tournoi sur gazon d'Isburn associé à la Tunisienne Ons Jabeur, 4e mondial en simple, selon les organisateurs de ce tournoi préparatoire au majeur. Elle a déclaré même « Je suis très heureuse de revenir à Eastbourne, en Angleterre, et d'être de retour sur gazon, une surface qui m'a tellement réussi durant ma carrière. » Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Le dernier titre de Serena Williams remonte à Londres, à 2016, mais elle avait atteint la finale en 2018 et en 2019. Ça, c'est, il faut le dire. Tennis, je reste là, dans ce sport. Il y a Nadal qui a commencé un nouveau traitement pour son pied. Voilà. Son pied qui lui fait mal. Il faut tout le temps qu'il se fasse piquer pour pouvoir jouer. Voilà. Il faut tout le temps qu'il se fasse piquer pour pouvoir jouer. Alors, 2 jours après son 14e sacre à Roland-Garros, le Marjoguin, il vient de Major, Mallorca Major. C'est ce qu'on appelle le Marjoguin. Nadal a été soumis à un traitement par radiofréquence pulsée qui endort les nerfs dans la région de la blessure dont il souffre. Ouais. Il dit... C'est pas vrai. Je peux pas continuer comme ça. Il faut que je me fasse traiter d'une autre manière afin que je puisse, si je veux encore jouer au tennis, même si je ne veux plus jouer au tennis, pour bien me porter, pour ma santé normale, mentale aussi, physique. Il souffre depuis des années de ce syndrome de Miller-Weiss, une maladie dégénératrice et incurable qui se caractérise par la déformation d'un des os du pied. Le champion espagnol a révélé qu'il avait dû jouer la finale de Roland-Garros avec le pied anesthésié, mais il n'était pas prêt à renouveler l'expérience. Ça, c'est vrai. Il ne veut plus entendre parler de ça. C'est ce qui fait qu'ils ont choisi cette nouvelle méthode pour le traiter. J'espère bien qu'ils vont arriver à le faire sortir de là, de cette souffrance. Mais il traîne ça depuis fort longtemps, depuis le début même de sa carrière. Je me suis dit, avec les millions qu'il a là, quels sont les médecins? Ils vont aller chercher les plus grands médecins du monde pour qu'ils puissent se faire traiter une bonne fois pour toutes. Voilà, il dit, je serai là si mon corps me le permet, c'est-à-dire à Wimbledon, dont je viens de parler concernant Serena Williams. Oui, je serai là si mon corps me le permet. Nadal n'a pas 18 ans maintenant. Hein. Et Serena aussi, elle est dans la quarantaine, 40 ans si je ne me trompe pas. Je pense bien que ça va être peut-être un de ses derniers tournois. Ou bien peut-être qu'elle attend pour faire son tournoi d'adieu aux États-Unis, comme Federer, peut-être qu'il fera son adieu au cours d'un tournoi en Suisse, dans son pays d'origine. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis, il n'est pas le seul sportif professionnel qui souffre de cette maladie. Il y a un joueur de football, un Suédois qui joue à AC Milan, le Zlatan Ibrahimovic, le fameux, l'intrépide. Voilà, je dis ça parce que c'est un garçon qui n'a pas sa langue dans ses poches. Il dit ce qui lui passe par la tête. Il est bruyant, il aime se faire remarquer. Zlatan Ibrahimovic. Ne le confondez pas avec l'ancien propriétaire de Chelsea, hein, Abramovic. Ne le confondez pas. Voilà, lui, c'est Ibrahimovic qui publie des images de ponctions. J'ai vu ça. Des injections que subit son genou gauche. Une affaire de genoux, voilà, de jambes, comme Nadal. Il ne pourra pas jouer sans l'aide d'une seringue. Il faut tout le temps qu'il se fasse piquer. Donc, avant que Nadal n'a mis d'ailleurs la République Sport, d'ailleurs, en avouant qu'il avait joué tous les matchs de Roland Garros sous infiltration, Zlatan Ibrahimovic, qui a 40 ans aussi, hein, je ne sais même pas, il a continué de jouer à l'AC Milan, ouais. Avait publié sur son compte Instagram des images de ses propres injections. Son genou gauche jaunâtre subissait une ponction et se nourrissait de seringues de ses... Je dois vider mon genou une fois par semaine depuis 6 mois. Et quelques jours après le sacre de l'AC Milan dans le championnat italien, le Suédois avait décrit C'est malheur. Depuis 6 mois, je joue sans ligament croisé antérieur dans mon genou gauche. Genou enflé depuis 6 mois. En 6 mois, je n'ai pu m'entraîner avec l'équipe que 10 fois. J'ai pris plus de 20 injections en 6 mois. Vidange du genou une fois par semaine pendant 6 mois. N'ai presque pas dormi pendant 6 mois à cause de la douleur. Ça fait mal quand même. Oui, pourquoi il n'arrête pas de jouer? Il aime tellement le foot. C'est ça? Ouais. Dans mon objectif, je n'avais qu'un seul objectif. Faire de mes coéquipiers et de mon entraîneur des champions d'Italie. Et ils sont arrivés à le faire. Et parce que je leur avais fait une promesse. Aujourd'hui, j'ai un nouveau ligament croisé et un autre trophée. Ils ont gagné la Coupe d'Italie. Là, c'est Milan. Ouais. Ça, c'est beau, ça. C'est beau comme histoire. Voilà, tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On ne peut pas demander mieux que ça, quoi, de toutes les façons. Ouais, c'est... Mais à un moment donné, il faut savoir prendre sa décision. Quand on a 36 ans en sport professionnel, on a 40 ans, 36, à partir de même 30 ans déjà, le corps ne fait plus vraiment avec. Parce que le tennis, qui est d'ailleurs un sport individuel, comme je l'ai toujours dit ici, tu n'as personne pour t'appuyer. Alors qu'au foot, au moins, tu peux marcher un peu, faire la passe à l'autre coéquipier qui joue dans la même équipe que toi parce que l'adversaire, c'est celui qui vient venir te tacler. Parce que ce sont pas, c'est pas, on fait pas du, voilà, c'est pas des caresses qu'on fait sur un terrain de soccer, hein, c'est pas, ça, il faut le faire. Et j'aimerais bien que, voilà, ils arrivent les deux, ces grands athlètes, ces deux joueurs, athlètes professionnels sportifs, arrivent à se faire traiter pour de bon, pour ne plus continuer à souffrir de cette douleur qui les fatigue, qui leur empêche vraiment de, Nadal, on peut pas dire que ça lui empêche. Voilà, précisément. Restez à l'écoute après la petite pause publicitaire. Je vous reviens avec mon invité. Voilà. Elle sera là pour nous parler de cette pièce de théâtre sensorielle des mots à la fenêtre. Marie Ayotte, directrice artistique et générale du théâtre Déchaîné. À tout de suite.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission Escale 17-18. Mon invité est déjà au bout du fil, Marie Ayotte, qui est directeur artistique et générale du théâtre Déchaîné. Pour la pièce, il va nous présenter, parler de la pièce de théâtre sensorielle des mots à la fenêtre. Voilà, je me suis documenté comme je pouvais, j'ai reçu le communiqué. J'ai dit, waouh, ça, il faut en parler. Il faut lui permettre de faire connaître d'abord le théâtre et puis cette pièce sensorielle. Et puis, voilà, elle est déjà là. Bonjour Marie Ayotte.
Bonjour, bonjour.
Alors, comment cette nouvelle pièce-là? Des mots, pourquoi des mots à la fenêtre?
Des mots à la fenêtre, c'est une pièce qui est spécialisée pour les personnes vivant avec des troubles cognitifs,
oui.
Pour les personnes qui vivent avec en situation en début de démence et ou avec une déficience intellectuelle. Et des mots à la fenêtre, ça vient de l'autrice qui s'appelle Audrey Desrosiers, qui est aussi l'interprète. Et parce qu'on parle de mots, en réalité, on crée un poème avec les mots que les gens nous donnent, afin de garder en mémoire là, tous ces beaux souvenirs, ces beaux mots-là qu'on peut créer,
oui.
qui remplissent la langue française.
Wow. Quand j'ai lu tout cela, parce que je me suis dit, comment l'idée vous est venue d'ailleurs? Parce que c'est pas une pièce comme toute autre, hein, c'est une pièce adaptée aux gens dans cette situation-là. On parle de comment dirais-je, d'Alzheimer, de déficience intellectuelle et puis de début de démence. C'est tout un tout, quoi. Je me dis, mais comment l'idée leur est venue même de ça, de faire quelque chose pour ces personnes? Vous vous déplacez même dans les centres de résidence, dans les maisons de résidence de personnes âgées.
Absolument. Le théâtre Déchaîné, c'est ce qu'on fait. Nous, c'est du théâtre approprié,
oui.
pour que tout le monde puisse avoir accès à du théâtre, peu importe la situation. Parce que les gens sont à l'été, donc on a fait déjà du théâtre au téléphone et par web. On fait du théâtre adapté à certaines situations de handicap physique ou mentaux. On fait des pièces en salle.
Comment ça s'est passé? Avant de continuer, Marie, oui. L'année passée pour 2021, oui. On fait un petit retour. On voit un petit tour en arrière. Comment ça s'est passé le théâtre au téléphone 2021?
Ça s'est très bien passé. On avait fait, je me souviens de vous avoir parlé pour et Planétarium et tantôt Demain peut-être, qui était une pièce au téléphone. Ça s'est très, très bien passé. Il y a une très belle réception. On a été très, très choyés. Et on a vraiment vu qu'une demande pour ces formes théâtrales-là qui ne sont pas traditionnelles ou qui pensent à des moyens que tout le monde peut avoir accès au théâtre.
Oui.
Donc, pour nous, c'est à la base de notre mandat. C'est ma passion. C'est ce que je fais tous les jours. Mm-hmm. Et avec des mots à la fenêtre, on voulait penser à comment on peut, dès le départ, comment on peut faire une pièce de théâtre qui réfléchit. Pas juste après on s'adapte, mais comment dès le départ. Donc, des mots à la fenêtre, les gens sont invités à parler de leurs souvenirs, à sentir des choses, à toucher des choses, à chanter s'ils veulent. Oui. Évidemment, c'est fait dans le respect de tous. Tout le monde ne peut choisir de participer ou non. Mais vraiment, notre but, c'est de réfléchir à que tout le monde ait des arts vivants. Puis le meilleur moyen pour ces types de clientèle-là,
Mais
c'est d'aller dans les CHSLD, les maisons intermédiaires, les résidences, puis d'aller directement à eux à travers le Québec.
Mmh, mmh. Là, ce qui me plaît, c'est que quand je lis là, le communiqué que j'ai reçu, avec cette œuvre, votre but est de briser l'isolement et d'offrir un moment de répit, les lourdeurs quotidiennes qui accompagnent ces gens qui ont ces différentes maladies dont on parle depuis le début, oui.
Exactement, mais c'est le but tout le temps de briser l'isolement parce que ben, avoir que ce soit des troubles cognitifs, que ce soit quoi que ce soit, ça reste que vivre dans les diverses situations de handicap amène des lourdeurs, des choses dans le quotidien, un isolement quasi automatique. Donc, on veut vraiment trouver un moyen que ces gens-là soient entendus, aient une place pour parler, pour être écoutés.
Oui.
Puis vraiment, les arts vivants, comme le théâtre, sont des moyens excellents pour pouvoir faire ça.
Oui, oui. Wow. Bravo à vous et à votre complice.
Merci, merci.
C'est quelque chose vraiment... Vous sortez complètement du chantier battu, standard.
On a fait, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui se spécialisent à faire pour les spectateurs. Il y a des très, très belles compagnies pour les gens sur scène, mais pour les spectateurs, il y a qui sont en situation, diverses situations handicap physique ou mentaux, ou en isolement. Je veux dire, on s'entend aussi qu'on pense aux gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux aussi parce qu'ils s'occupent de quelqu'un, parce qu'ils sont prochains aidants. Parce qu'il y a plein de situations auxquelles on ne peut pas aller dans le théâtre traditionnel, puis il faut penser à ça. Donc, oui, il y a une il y a un besoin là.
Mm-hmm. Depuis quand vous travaillez ensemble?
C'est notre première collaboration ensemble, mais Théâtre Déchaîné, on existe depuis 2019.
Oui, oui. Bravo. Non, je suis fasciné, quoi, quand je... je suis très, très, très fasciné par ce que vous faites, là. Et comment, des mots à la fenêtre, là, ça commence... c'est pas seulement Montréal, hein, c'est à travers tout le Québec. Comment est-ce que vous prenez les rendez-vous? Comment est-ce que vous contactez les maisons de résidence ou bien les personnes? Comment ça se passe? Qui fait le booking? C'est vous ou bien...
Non, c'est moi. J'ai une personne extraordinaire à qui je travaille, qui s'appelle Olivier Caron-Brisebois, qui est mon bras droit dans Théâtre Déchaîné, qui s'occupe du booking, en réalité.
Oui.
On prend des régions. Bientôt, au mois de juillet, on s'en va en Abitibi, en Trente, on se promène un peu partout. Et on book, on appelle des endroits et on regarde si ils seraient intéressés à ça.
Oui.
Puis, on a eu la chance aussi dernièrement d'être aux maisons Gilles Carle, la maison Évasion, où on a fait le spectacle avec Mme Chloé Sainte-Marie. Donc, on prend toutes les opportunités pour pouvoir atteindre ces clientèles-là un peu partout au Québec, puis pouvoir... en réalité, faire connaître ce travail-là, qu'il y a des gens qui puissent vivre 45 minutes qui sortent de leur quotidien.
Oui, oui. Comment ça s'est passé à la Fondation Gilles Carle avec Gilles Carle? Gilles Carle, qui est l'un des fondateurs de la maison d'édition Hexagone avec Gaston Miron et autres. Hein. Ouais, il était le graphiste de l'équipe à l'époque. Il faisait pas du cinéma.
Puis Chloé est une personne extrêmement généreuse, gentille. Et ça a été vraiment une très, très belle expérience. J'étais là pour ce spectacle-là. Et de voir les gens participaient, les gens parlaient de leurs souvenirs, de leurs parents. Ils parlaient des endroits où ils ont vécu. Et c'était vraiment un très beau moment. Chloé a lu un poème à la fin.
Oui.
C'est vraiment un beau moment de connexion sur les mots, sur les souvenirs, sur la langue. Puis ça nous permet aussi justement, moi je ne voyage pas avec elle, mais Audrey, de voir un peu partout au Québec et de voir différentes gens, différentes populations.
Oui. Mais sincèrement, je ne sais pas, je le sais, mais qu'est-ce qui va venir pour la prochaine fois encore? Parce que là.
Mais là, on travaille, en ce moment, je travaille sur un spectacle pour parler de douleurs chroniques. C'est quand même c'est quand même 20% de la population et on travaille sur un premier laboratoire où le spectacle va être à la fois en salle et accessible en radio à distance, mais ça va être leur propre spectacle pour assurer que tout le monde y ait accès. Ça, c'est un des premiers projets sur lequel on travaille.
Oui.
Et on a beaucoup de projets aussi qui s'en viennent en termes d'intervention là, pour que les gens puissent parler de leur propre réalité dans divers sujets. Mm-hmm. Ça, c'est parmi nos projets là, de la fin de l'année, ainsi qu'un gros projet de recherche pour trouver des meilleures solutions pour rendre le théâtre accessible à tous.
Des meilleures solutions pour rendre le théâtre accessible à tous.
Donc, comment on fait des accommodations avec divers troubles de santé mentale ou avec des conditions physiques ou tout ça. Donc, comment on peut rendre réellement, dès le départ, le théâtre juste en faisant ça et ça, il y a toute cette nouvelle clientèle-là qui aurait accès.
Oui, ça
pour
c'est
pour
ça.
Pour que tout le monde puisse y avoir.
Ça, c'est votre niche à vous, ça. Toi, vous et Chloé, Audrey.
C'est notre niche, en effet, puis on a beaucoup, je travaille avec beaucoup d'artistes, mais c'est notre niche, mais on veut que tous les théâtres, des fois, ça prend
s'y
pas
mettent.
Exactement. Si on peut faire, des fois, c'est des petits ajustements pour mettre des sous-titres ou plein d'autres possibilités,
oui.
Ça rendrait vraiment le théâtre plus accessible. Et on veut pouvoir faire ces recherches-là pour qu'après ça, ça soit facile pour d'autres compagnies.
Dites-moi, Marie, entre nous là, personne ne va nous entendre.
Oui.
Avant de créer le théâtre déchaîné, là, c'est à ça que vous aviez pensé avant de vous lancer dans ce projet?
Non, c'est pas quelque chose que j'ai pensé. Moi, en réalité, ma spécialité, c'est le théâtre thérapeutique, c'est le théâtre d'implication de spectateurs où les gens parlent.
Oui.
Puis, avec la pandémie, j'ai commencé à réaliser à quel point beaucoup de gens n'avaient pas accès à du théâtre, même au-delà de la pandémie.
OK.
Donc, c'est comme ça que on a avancé Théâtre déchaîné,
oui.
C'est en réalisant à quel point il y a des gens, pendant bien plus longtemps qu'une pandémie, il y a des gens qui n'ont pas accès à du théâtre.
Wow. S'il y a des gens qui nous écoutent actuellement, ils se disent, j'ai envie de travailler avec cette femme. Qu'elle vous contacte? Comment?
Oh, vous pouvez nous contacter avec énorme plaisir.
Oui.
Info, I-N-F-O. Commercial Théâtre Déchaîné, donc théâtre theachaines.com. C'est sur notre site web.
Oui.
Je suis Marie Ayotte. Vous pouvez toujours m'écrire en tout temps. Ça me fait toujours grand plaisir.
Oui. Et quels sont déjà les mots à la fenêtre? Là, il y a eu déjà les premières prestations qui sont passées?
Oui, on a commencé à faire des prestations au début juin.
Oui.
Et là, on en a là, qui s'en viennent. On est booké au complet juillet, puis on commence à être booké en partie en août. Là.
Je ne dis pas que vous êtes en fin de carrière, mais Marie, si c'était à refaire.
Oui.
Ce que vous faites actuellement.
Oui.
Si c'était à refaire. Je vous demande, si c'était à refaire.
Est-ce que je le refais?
Oui.
Oh, absolument. Oh, 100%. Il n'y a même pas une question. C'est exactement ce que je veux faire de ma vie.
Oui.
J'ai 37 ans. C'est le reste de ma vie. C'est exactement ce que je veux faire.
Merci beaucoup à vous.
Ah, merci à vous.
Au plaisir de vous réentendre avec une autre belle pièce. Mais est-ce que nous qui ne sommes pas dans cette situation d'handicap, de santé mentale, est-ce qu'on peut assister à ce genre de pièces-là?
Beaucoup de nos pièces, oui. Pas celle en particulier.
Pas celle en particulier.
Quoi qu'on travaille sur une version téléphonique pour les gens qui sont à la maison en ce moment.
Oui.
Donc, ça va venir plus tard. Mm-hmm. Et on travaille sur des versions, ça. Mais notre prochain show qui s'appelle Silence infini des requins pèlerins, qui est sur la douleur chronique, lui va être accessible à tous.
Pas seulement réservé aux gens qui ont des problèmes de santé.
Exactement, celui-là, c'est des mots à la fenêtre et plus dans les résidences, tout ça, vu la nature de la clientèle.
Oui.
Mais d'autres de nos shows, comme celui, le prochain qui s'en vient, va être vraiment pour tous.
Mais durant ces prestations-là, bon, une dernière phrase avant de vous quitter, avant de vous laisser partir. Est-ce que les personnes, ou bien s'il y a des gens, il y a des personnes aidantes, ou bien est-ce que le personnel des résidences de personnes âgées, ou bien les CHLSD, ont le droit d'assister, ou c'est seulement les gens?
Non, ils ont le droit.
Oui.
Puis nous, on travaille très, très régulièrement. Donc, Audrey Desrosiers, ça fait 15 ans qu'elle travaille avec ce type de clientèle. Nous, on travaille beaucoup avec des comédiens, comédiennes ayant un bagage soit en relation d'aide ou en travail social, ou tout ça pour assurer que ça soit plus facile dans certaines situations. Mais vraiment, c'est juste une question qu'on se déplace sur place, mais des fois, il y a les propriétaires des résidences qui sont là, mais on veut donner une pause aux préposés, aux aidants, oui. Parce que des fois, c'est beaucoup de temps. Donc, ça leur donne 45 minutes. Si jamais ils veulent aller faire d'autres choses, ils peuvent, on s'en occupe. On est là pour eux, on sait comment gérer, donc on est là.
Ouais, vous pouvez communiquer encore votre site web ou votre courriel, comment on peut vous joindre? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont chercher à vous joindre. Là, voilà.
Donc, c'est Théâtre Déchaîné avec un S parce qu'on est plusieurs.
Oui.
C'est info@théâtredéchaîné.com. Sinon, oui. Site web, c'est www.théâtredéchaîné.com.
Merci beaucoup, Marie Ayotte, directrice artistique et directrice générale du Théâtre Déchaîné. C'était pour, qui vient de nous donner tous les petits détails de la pièce de théâtre sensoriel, des mots à la fenêtre. Ça m'a fait sourire quand j'ai vu le titre, des mots. Merci beaucoup, Marie.
Merci beaucoup, bonne journée.
Merci à vous aussi.
Bye bye.
Bye bye.
De questions dans ma vie, je ne connais pas les réponses. Taisez-vous, je vous en prie, car sans sens, non plus rien n'a d'importance. Nous vivons dans un monde de fous, où tous les crétins sont sûrs d'eux-mêmes. Les grands sages doux, et je m'y perds moi-même. Quand tous les mots seront dits, restera que des silences. Nos peurs seront parties. Oh, quelle chance! Oh, quelle chance! Nous vivons dans un monde de fous, mais les vrais gagnants sont ceux qui aiment. Ça prend plus de temps, c'est tout, mais c'est le plus beau des remèdes. Alors quand j'en ai marre de tout, je pense alors aux gens que j'aime. J'en sens un parfum bien plus doux, et qui atténue mes peines. Sont sûrs d'eux-mêmes, où les grands sages doutent, et je m'y perds moi-même, et je m'y perds moi-même.
Ouais, je m'y perds moi-même, vivons dans un monde de fous. C'est de grands enfants, le groupe, c'est le duo, ça s'appelle de grands enfants, et le titre de la pièce qu'on vient d'écouter, c'est un monde de fous, avec deux en chiffres, pas en lettres. Voilà, un monde de fous. Voilà, je vais parler un peu du Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui nous présente l'artiste multidisciplinaire Stanley Février, qui réalise depuis plusieurs années d'ailleurs une série d'actions performatives et puis infiltrantes dans les musées. Il se livre à un examen critique du monde de l'art en explorant les dynamique de pouvoir qui contribue à la sous-représentation de certains artistes au sein des institutions culturelles. Ouais, ça c'est bien dit. Installé dans le pavillon Mikael et Renata à Ornstein du Musée des Beaux-Arts de Montréal, son musée d'art actuel, département des invisibles, MAADI. Voilà, c'est le département des invisibles des départements des invisibles a pour mission de corriger ces inégalités en mettant à lumière des artistes invisibilisés. Je dis bien invisibilité. C'est comme ça. Je dis le vrai mot que le musée des Beaux-Arts emploie. Des artistes invisibilisés. Voilà, pas invisibles. Ça dit que c'est le musée d'art actuel, département des invisibles. C'est le MAA, le MAADI, M-A-A-D-I, qui a pour mission de corriger ces inégalités en mettant en lumière des artistes invisibilisés. Donc, le MAADI est inspiré du travail d'analyse des collections muséales que Stanley a entamé lors de ses études en s'appuyant pour les recherches de l'historienne de l'art Philippa Estive au sujet de l'absence de points de vue culturels diversifiés dans les galeries d'art contemporains du Canada. C'est bien dit, c'est bien ça aussi. Et puis pour aborder cette question, Stanley Février a essayé d'aborder ça, prendre la posture de l'artiste collectionneur et du directeur de musée, puis s'atteler à créer et à exposer aussi une véritable collection œuvre conceptionnelle d'ailleurs, présentée sous forme d'installation. Ce musée itinérant est un lieu de rencontre et de transgression. Ouais, intéressant. C'est vrai. Bon, ouais, ça. On revient toujours. On se pose la même question. Les gens des autres, ouais, les minorités, comme on dit, les invisibilisés. On ne les voit pas partout. Hein. On ne les entend pas partout non plus. Donc, les créations artistiques du MAADI. Le MAADI, qui est le musée d'art actuel département des invisibles, le MAADI, propose une pluralité de perspectives et contribue au développement de nouveaux récits, reconsidérant la notion de frontière, tant physique que métaphorique, et abordant des thèmes tels que l'intimité, le deuil et la mémoire, le secret et l'oubli, ainsi que la relation entre l'humain et la nature. Voilà. Donc le MAADI réunit d'ailleurs toutes ces installations, des sculptures, des photographies, des peintures, des vidéos d'artistes de divers horizons. Et la liste est longue, c'est tellement intéressant, il faut aller le voir. Bon, pour Stanley, l'art est un outil de changement social. Avec le musée d'art actuel, département des invisibles, ils mettent en lumière l'urgence d'élaborer ces nouvelles pratiques muséales. Favoriser des relations équitables entre musées, artistes et publics. Donc ce musée, dans un musée, s'approprie l'espace du Musée des Beaux-Arts de Montréal pour remettre en question le processus de création des valeurs symboliques et économiques du système muséal. Voilà, c'est la commissaire invitée qui dit ça, Laura Delfino. Donc la représentation de pratiques artistiques diversifiées joue un rôle déterminant dans le monde de l'art ainsi que dans notre société. Donc dans cette œuvre, en constante évolution, tout est moyen d'expression. Les artistes, le commissariat et puis le musée aussi. Voilà, j'ai encore quelques minutes encore, ou bien une minute seulement, ou bien quelques secondes, Nicolas, pour que je puisse... Ouais. le rôle que Stanley, mon frère, pour faire de l'Institut Sion Muséal un espace critique qui interroge le discours dominant et encourage le partage de pouvoir. Donc, le musée dans le musée, le MAADI, s'incarne dans ces interactions et l'exposition résulte de ce devenir. C'est intéressant. Oui. Stanley, il est né à Port-au-Prince. Hein. Il vit et travaille à Longueuil, près de Montréal, ses installations. Il est là depuis plus d'une trentaine d'années. Et c'est d'origine, né à Port-au-Prince, d'origine haïtienne, mais c'est un Montréalais, c'est un Québécois. C'est sculpture et performance abordent la violence et la souffrance qui découlent des dynamiques de pouvoir dans leur dimension tant politique qu'intime. Voilà. Oui, il vient du milieu du temps. De toute façon, je vais revenir sur ça, ce qui est sûr. Voilà.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà, pour terminer en beauté. Voilà, avec la Fondation Place des Arts, qui vient de récolter 688 000 dollars. Voilà, la grande première des futures étoiles 2022 fut couronnée d'un succès incontestable. L'événement a permis à la Fondation de la Place des Arts d'amasser cette somme record de 688 000 dollars. Canadiens, bien sûr. On parle de Place des Arts, c'est pas aux États-Unis, c'est ici à Montréal. Donc, cette somme va permettre à la Fondation de continuer à appuyer le déploiement du programme L'Art en Soi de la Place des Arts, qui propose d'ailleurs chaque année des activités culturelles et éducatives à tous les citoyens pour leur permettre de s'initier à l'art vivant en compagnie d'artistes professionnels. Ouais, c'est ça. C'est la soirée bénéfice. Non. Et puis, comment la Fondation, qui depuis sa création en 2011, la grande première des futures étoiles présente. Ce sont des spectacles uniques qui permettent de recueillir des fonds pour appuyer les programmes du secteur éducation et collectivité de la Place des Arts, qui permettent de créer aussi des centaines de rencontres chaque année entre artistes et publics diversifiés. Oui. Donc cet événement qui réunit des gens d'affaires, des philanthropes et des amateurs d'art de tout horizon offre à de jeunes artistes aux talents exceptionnel l'occasion de se produire sur une scène de prestige, celle du théâtre Maisonneuve. Voilà, ça c'est j'adore cette salle là d'ailleurs. Voilà, c'est quand tu t'assois là-dedans là, tu vois un spectacle là-bas, le son qui vient dans tes oreilles, c'est du, comme diraient les Anglos, c'est du candy hearing. Alors, voler. Créer des tests avec vous, les collectivités, les arts et la culture sont essentiels au développement et à l'épanouissement des personnes, donc de la communauté, de la société. C'est pourquoi c'est de ça que je venais de parler avec mon invité aussi, avec tout ce qu'elle crée, avec sa complice poète, avec des mots à la fenêtre dans les pièces théâtrales, sensorielles bien sûr. Tu te dis, waouh, avant, ces deux jeunes femmes, personne n'a pensé à ça. Oui, qu'on pouvait faire du théâtre pour les gens qui sont en souffrance. Pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, pour les gens qui ont des problèmes neurologiques, pour les gens qui ont des problèmes d'Alzheimer, ouais, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. J'ai dit, c'est une niche qu'elle a débouchée comme ça. Il va falloir qu'elle continue comme ça. Bah, elle, de toute façon, d'ailleurs, elle l'a dit, elle est toute jeune, 37 ans, elle a devant elle. Si c'était à refaire, elle ne m'avait pas bien entendu, j'ai répété, elle a dit, oh, elle t'a de rêve. Elle va continuer comme ça. Fin de séjour. Alors, j'ai dit bravo à tous ceux qui ont donné à la Fondation de la Place des Arts, la grande première des futures étoiles qui a amassé cette somme record là. Ça c'est le spectacle des jeunes artistes au talent exceptionnel. C'était sous la direction artistique de Madame Valérie Milo, musicienne de renommée internationale et première harpiste en plus de 100 ans à remporter le prix d'Europe. La soirée a mis en lumière de jeunes artistes au talent exceptionnel issus de diverses disciplines des arts de la scène. Et puis, il y a eu performants de ces futures étoiles qui ont été chaudement applaudis par le public pour ceux qui se sont déplacés. Ouais, on dit, l'art relie les humains entre eux et les unit devant la beauté, le talent, le rêve, les passions et les émotions qu'ils suscitent. Ils cimentent notre société. Hier, les futures étoiles, ouais, qui ont été choisies avec cœur, voilà, ont démontré une fois de plus que l'art fait du bien, souligné Valérie Milo, qui était à la tête de ce spectacle, de cette groupe, de cette prestation. Ouais. Je vais parler en même temps, profiter un peu en rasla. Donc j'ai encore deux petites minutes avant de terminer cette émission. Danse au pluriel. Comme c'est un de mes sujets de prédilection. J'aime la danse. Qui n'aime pas la danse? Tout le monde aime la danse. Même ceux qui ne dansent pas aiment la danse. Parce qu'ils aiment regarder des gens danser. Voilà. Ils disent, je ne sais pas danser, mais j'aime regarder danser. Alors, on ne nous demande pas de danser comme les danseurs professionnels qu'on va voir dans les salles. Non, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Danser, au sens propre du terme, c'est au fait se laisser aller au son d'une musique, d'une pièce musicale, d'un son, quelque part. Mais ceux qui gagnent leur vie, les grands chorégraphes qu'on va regarder dans les salles, les grands danseurs qui font des compétitions, ça, c'est à un autre niveau, ça ne nous concerne pas nous autres. Mais nous, dans nos petits, devant le son miroir, chez soi à l'entrée de son appartement, ou bien chacun de nous peut se trémousser comme il veut. Ouais. Et là, je vais parler un peu de danse au pluriel, de danse qui parle le festival. J'en ai parlé ici la semaine passée d'ailleurs. La street dance au cœur du quartier des spectacles. C'est le Jack of All Trade and Dance Net qui font une coproduction. C'est du 31 août au 6 septembre, une programmation avec plus de 150 artistes, à peu près plus de 150 artistes qui vont plonger le public d'ailleurs dans l'univers du street dance, des batailles de niveau, haut niveau. On revient là-dessus, de temps en temps je vais vous parler de ça. Merci à toi Nicolas, On se retrouve à demain. Et je dis merci à notre invitée, Marie Ayotte, directrice artistique et générale du Théâtre Deschenais, qui est venue nous parler de la pièce de théâtre sensorielle des mots à la fenêtre. Et merci à tous nos fidèles auditeurs d'être avec nous tous les jours, de 17h à 18h. C'est ce qui fait qu'on appelle, cette émission Escalade 18. Prenez soin de vos minutes. Voilà, faites attention au destin qui n'est qu'un simple farceur. Sur ce, je vous dis ciao.